Et aujourd'hui, nous sommes à Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes.
Aurélie Spez, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au marché de Breil-sur-Roya. Hier, vous étiez à Fécamp avec Antoine Lee et nous, on est ici, au bout du bout du bout du sud-est de la France, dans les Alpes-Maritimes, à la lisière de la frontière italienne. Breil, c'est un petit village dans les montagnes, à 20 km de Vintimille. Pour arriver ici depuis Nice, on prend un TER qui transperce ces paysages spectaculaires du bout du monde. Et là, on se dit que vivre dans la vallée des merveilles, sans le train, tu crèves de faim. Depuis hier, on parle du train comme d'une ligne de vie. Tout ça, c'est à cause d'Alex. Alex, c'est comme ça qu'on l'appelle, la tempête. Alex a débarqué au village l'année dernière et les a mis KO. Vous vous souvenez ? Elle a détruit des maisons, des ponts, des routes, partout dans les vallées de la Vésubie et ici dans la Roya. On traverse le pont et il n'y a plus de rivière. À la place, une tranchée, un cratère. La Roya a été détournée pour travaux, mais on nous dit qu'elle retrouvera bientôt son lit. Nous, on est là-haut, au milieu du marché, place Biancheri. Un peu en France, un peu en Italie. On a installé une table devant l'église et quelques chaises en bricolant, parce qu'il n'y a même plus de bistrot. C'est un village de toute beauté, mais qu'il faut reconstruire. On a donné rendez-vous aux habitants de Breil, qui ont été bien éprouvés, et on va parler de tout. De la solidarité, de la révolte, des doutes, de l'accueil des réfugiés qui rassemblent ou qui divisent. Les uns nous disent « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », et d'autres ouvrent leurs bras et leurs maisons à ceux qui traversent la frontière, en espérant peut-être le changer, ce monde. Bonjour Nathalie Masseglia.
Bonjour.
Vous êtes comédienne.
Comédienne professionnelle, résidente dans la vallée de la Roya.
Bonjour Michel Braun.
Oui, bonjour.
Vous êtes éditeur et vous êtes passionné par l'histoire du train dans la région.
Oh, du train et puis de l'histoire locale en particulier, oui, tout à fait.
Bonjour Jean-Pierre Cotalorda.
Oui, bonjour.
Jean-Pierre, vous étiez policier dans une autre vie. Maintenant, vous êtes à la retraite ?
Voilà, c'est ça, oui, je suis à la retraite. Mais j'habite pas à Breil, moi j'habite à la Chiendola, en banlieue.
C'est à combien de kilomètres ?
2 kilomètres.
Comment on dit, commandant de police ?
Oui, j'étais commandant, oui.
On est tous ensemble, ici, sur la place du marché de Breil. On se retrouve pour papoter et explorer le village. Juste après,
Gaëtan Roussel, qui n'est pas breillois, au demeurant, mais qui va chanter,
Oui,
d'accord,
on va l'écouter.
Va chanter. Est-ce que tu le sais ?
Et c'est le choix de...
Ben, de Djoubaka. Je connais.
Est-ce que tu sais que 8 jours ça fait 11 520 minutes à la seconde près? Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois la hauteur, dit ton maître près? Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour, là, ici et tout autour? Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à 1 millimètre près? Je sais pas si tu sais, je sais pas. Tu sais, je sais pas si 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 tu sais. Est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleurs et des pleurs? Je peux pas te dire à la rivière après. Est-ce que tu sais pousse des armes, des tonnes et des tonnes? Je peux pas te dire au drame près. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si si tu sais. Je sais pas si tu sais. Je sais pas si tu sais. S'éparpille ici, tout le monde ne regarde personne et personne ne voit tout le monde. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais.
Vous êtes bien sur France Inter et nous avons rendez-vous place du marché, ici à Breil-sur-Royard, au milieu des montagnes majestueuses. Nathalie, on est place Giuseppe Biancheri, on est un peu en Italie ici.
Eh, pas vraiment, à Breil-sur-Royard, on n'est pas tellement italien quand même, hein. On n'a pas été Jean-Pierre.
Ici, on n'a jamais été italien. On n'a rien contre les Italiens, bien entendu, mais on n'a jamais été italien. Ça faisait partie du comté de Nice, donc c'est devenu français, et avant d'être français, c'était niçois, ça faisait partie du comté de Nice.
Ça ressemble à quoi pour vous, Nathalie, Breil-sur-Royard?
Moi, je ne sais pas parce que j'ai le complexe d'Heidi. Je suis complètement agoraphobe, je ne sors pas d'ici. Donc, je ne sais pas à quoi ressemble le reste. Je pars du principe qu'on est dans le centre du monde et que c'est les autres qui viennent.
Il y a un dicton à Breil qui dit « De l'altra parte dal Bruis che gente ». Ça veut dire que de l'autre côté du col de Bruis, il paraît qu'il y a encore des gens.
Voilà, si je découvrais cet endroit, évidemment, il y a un petit typé italien, un petit typé Italie du Sud. Il y a quelque chose de baroque parce qu'on voit des petites mosaïques au-dessus de nos églises. D'ailleurs, j'en vois trois d'un coup sur un 180 degrés. Donc, je me dis quand même qu'on doit avoir un petit passif très croyant, hein, quand même. On a dû... Et qu'est-ce que... Je vois des ocres, donc il y a un petit côté niçois aussi.
Des roses un peu passées...
Voilà. Donc là, c'est humide et il y a des petites traces de, on va dire, de passage de vagues de surf, quoi.
Ouais, le passage de vagues de surf. Alex en surf.
Voilà. Alors, j'ai appris qu'Alex, c'était Alex parce que ça commence par un A. Il y a des gens qui en sont à la lettre X, hein, sur le Pacifique. Donc, nous, c'était notre première tempête. J'ai déjà vu des vagues, pas comme ça.
Ouais, en amont du village, il y a un tunnel le long de la Roya. Qui ressort à l'extérieur du village. C'est pas pour rien qu'ils ont fait un tunnel, c'est un tunnel de crue. C'est-à-dire que s'ils ont fait ça, c'est que le village, il a dû se noyer quelquefois, hein, dans le passé.
Jean-Pierre Cotalorda, vous êtes ancien flic.
Oui.
Vous avez prêté main forte ici pendant la tempête.
Non, Jean-Pierre, non. C'est son principe, de toute façon. Hein. Le matin, il aide des gens, le soir, il aide des gens. Tempête ou pas tempête. Non. Donc, il y a un moment donné...
Non. Franchement, non, je ne veux pas parler de ça, c'est rien.
Alors Nathalie, elle peut peut-être en parler.
Alors moi, de fait, j'habite dans les montagnes, donc je me suis retrouvée sans route. On s'est auto-aidé, en fait, parce qu'il fallait qu'on retrouve nos accès. On a monté des chantiers bénévoles et on s'est organisé. Donc voilà, chacun, il a été là, naturellement, à un endroit où il était et compétent et là.
Qu'est-ce que vous avez vu pendant cette tempête? Nous, on a vu des images.
Oui. Voilà,
nous, on a vu des images au journal télévisé.
Qu'entre parenthèses, on n'a pas vu.
Ouais.
On a vu les images, oui, effectivement. Mais bon, quand il y a eu la tempête, d'abord, il y a eu le déluge, il y a eu les trucs. On a commencé par rester dans les maisons. Hein. Quand il pleuvait si fort, on sortait pas, on n'arrivait même pas au village, c'est tout.
On n'avait plus rien, on n'avait plus l'électricité.
Oui,
on a vu les images à l'époque où vous les aviez déjà digérées.
On n'avait rien, il n'y avait rien.
Le lendemain de tempête, il y avait un soleil incroyable, mais on a vu notre géographie qui avait changé. C'est-à-dire, moi, j'habite au-dessus de la vague. Et donc le matin au réveil, on a épongé toute la nuit, hein, mais on a bien vu que les méandres de la Roya avaient quitté la traditionnelle descente et qu'il y avait des maisons qui avaient disparu. Donc on a même eu du mal à réaliser, comme si vous aviez tous les jours quelque chose devant les yeux, puis d'un coup il n'y est plus, et puis vous vous dites, mais il n'y avait pas quelque chose. Donc oui, effectivement, ça a changé.
C'était un nouveau village.
Ah là, le village, par contre, c'est le choc. J'ai mis quelques heures à pouvoir descendre de la montagne parce que vraiment c'était assez méconnaissable au niveau des pistes.
Ouais, le village, il s'est rempli de boue. Le village, c'était terrible. Hein,
c'est pas descriptible.
On peut pas raconter ça. C'était une inondation. C'est comme on voit à la télé, hein. La même chose.
Des piles de voitures, pas vraiment des piles, mais enfin les voitures. Contre les murs, entassées avec des mètres de boue par-dessus et tout un tas de débris qui arrivaient depuis le haut de la vallée. Toutes les décharges qui étaient au bord des rivières, des centaines d'arbres qui ont été arrachés, et tout ça s'est retrouvé étalé dans le village.
Ici. Plus de stade ? Plus de stade. Le stade, c'est devenu la Roya. Hein. Moi, je suis au football. Mais le stade, il n'y a plus rien.
Parce qu'ici, on les voit, on voit ces montagnes, on voit cette nature, c'est une géographie magnifique et en même temps hostile.
C'est sévère, c'est pas hostile.
moi, je trouve que les montagnes, il faut se les taper, les montagnes.
Mais parce que tu viens de Paris, j'ai des points de vue.
Vous pouvez peut-être trouver Paris hostile.
C'est horrible, horrible. Taper, moi, vraiment, Jean-Pierre, il faut que j'en parle.
Ouais.
Quand j'arrive à Paris, je fais des crises d'angoisse. Hein.
Bien sûr.
Je veux pas heurter les Parisiens.
Il n'y a pas que des Parisiens qui écoutent France Inter, il y a toute la France.
Oui. En fait, quand je vais chez toi, vraiment, c'est l'enfer pour moi.
C'est vrai ?
Oui.
Moi, j'aime bien venir chez toi.
Mais moi, c'est une pathologie. Moi, je vais chez le psy pour ça.
Elle se soigne.
Je suis un peu angoissée quand je sors de la Roya.
Pourtant, Nathalie, alors on va se tutoyer. Oui, Nathalie, super. Toi, tu as vécu à Nice ?
Pas longtemps. Hein.
Jusqu'à 30 ans, à
peu oui, près. Oui, tout à fait.
Et tu es revenue ici. Oui, et moi, je me dis, tiens, puisque tu es intermittente du spectacle et que tu as vécu à Nice et que tu es comédienne, tu aurais pu te dire, je vais aller en ville pour rencontrer du monde, monter sur les planches et exercer mon travail dans une ville. Et pourtant, tu as décidé d'exercer ta profession de comédienne ici à Breil.
C'est un choix. C'est-à-dire que c'est un concept de vouloir vivre dans un endroit rural, comme tu disais, hostile, et comme disait Jean-Pierre, sévère.
J'ai dit hostile, mais j'ai dit magnifique aussi.
Ouais, c'est vrai. Et alors, du coup, le choix est d'arriver à faire mon travail de clown, de femme clown, dans mon village.
Donc, tu écris aussi sur la région, sur le territoire.
Oui, mes spectacles ne parlent que de la région, du territoire. Je ne peux pas imaginer parler d'autre chose. Pour moi, tout existe ici, dans tous les sens, quoi. Voilà. Là, il y a le maire du village.
Ah.
Ouais, mon maire qui vient
d'arriver. Votre
maire. Oui.
Que vous aimez.
C'est important parce que c'est quand même, ça va être le seul homme politique pour lequel je vais voter qui est à droite depuis Chirac.
Vous n'êtes pas de droite.
Ah non.
Sébastien Ollaran, 27 ans, jeune maire de Breil-sur-Roya. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur le maire, vous avez été élu l'année dernière, vous êtes sur la liste LR. On dit ici, le maire, il est côté Ciotti, quoi.
Oui.
Vous êtes arrivé ici, dans ce village, en même temps que la tempête Alex. Hein.
En plein pour le premier confinement, puisque j'ai été élu au premier tour et deux jours après, on était confinés. Et effectivement, six mois après, on a vécu la tempête Alex, subi la tempête Alex.
Donc il est arrivé en fanfare. Hein.
C'est ça. Enfin, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Donc voilà, c'était pour moi.
Comment vous avez vécu ça ?
Bah écoutez, on se pose pas de questions. Hein. On le vit d'abord comme tout le monde, avec de la sidération, et après dans l'action. Et j'ai eu la chance d'être porté par une population qui était vraiment extraordinaire, très soudée. Deux mois après la tempête, j'ai pas entendu une seule personne se plaindre, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup perdu. Donc voilà, je l'ai vécu, je vais pas dire bien, mais je l'ai vécu en me sentant soutenu.
Comment s'est exprimée la solidarité ici par rapport à la tempête ?
Oh bah, de toutes les manières, hein. On a aidé des personnes à se reloger. Il y a beaucoup de personnes qui tout de suite ont proposé des appartements qui n'étaient plus occupés et qui pouvaient accueillir des personnes sinistrées. Ils ont aidé en faisant des dons, ils ont aidé en ayant déblayé des propriétés. Voilà, ça a pris de multiples formes et ça s'est exprimé aussi bien de la part des gens d'ici que de la part de personnes, d'associations, d'entreprises, de collectivités venues de partout en France et même à l'étranger. Et on a été très vite submergés par des montagnes montagne de dons qui sont arrivés, qui arrivaient d'ailleurs d'autant plus nombreux à Bray qu'ils ne pouvaient pas aller sur le haut de la vallée de la Roya puisqu'il n'y avait plus de route et qu'on était obligé de faire tout transiter par Bray, par le train ou par hélicoptère pour monter sur le haut de la vallée. Et c'est vrai que jamais on s'attendait à avoir autant de dons, autant de générosité. Ça a aussi bien sûr pris la forme d'aide financière.
Il y a pas mal de gens qui se plaignent ici du fait que les assurances n'ont toujours pas payé.
6 mois après la tempête, c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions. Est-ce que l'État a donné les financements que le président de la République a annoncés? Est-ce que les collectivités en font assez? Est-ce qu'elles vont assez vite? Et en fait, tout le monde avait tendance à oublier qu'une grande partie des dégâts, ce sont des dégâts qui sont sur des biens privés et qui donc sont de la responsabilité des assurances. Donc voilà, 6 mois après, j'ai fait moi-même un communiqué en disant les assurances ne jouent pas le jeu, parce qu'on constatait que 6 mois après, à part des voitures, pour tout ce qui était notamment les propriétés, les maisons qui ont été touchées, il n'y avait aucune indemnité qui avait encore été versé sur la commune.
Et alors maintenant, on en est où ?
Oh bah maintenant, il y a une personne dont je sais qu'elle est sur le point de percevoir une indemnisation, d'autres qui ont reçu de premiers acomptes, voilà. Ça commence à bouger, c'est beaucoup trop long. Pour beaucoup de familles, c'est la double peine parce qu'elles ne savent toujours pas si elles vont pouvoir continuer d'habiter dans leur maison qui est située en zone inondable et elles ne savent même pas ce qu'elles vont toucher comme indemnisation. À minima, ça serait bien que les assurances déjà disent « on va vous donner temps pour rebâtir votre maison à l'identique ». Si jamais la personne peut y retourner, cet argent servira à ça. Dans le cas contraire, ce sera complété par les fonds Barnier pour indemniser la valeur de la maison et qu'ils puissent se reconstruire ailleurs. Mais déjà, s'ils avaient ce confort, entre guillemets, ou en tout cas cette certitude d'avoir cette aide de l'assurance, ça serait déjà énorme pour ces familles-là.
Des gens qui ont tout perdu, des commerces, des maisons.
Bien sûr, on a 44 arrêtés d'évacuation qui ont été pris après la tempête. On a une quinzaine d'entreprises sur la commune qui ont été touchées directement par la tempête, sans parler de toutes celles qui le sont indirectement parce qu'on a perdu les routes, parce qu'on a perdu pendant un certain temps la voie ferrée. Et puis oui, vous avez dit aussi toutes les infrastructures publiques qui ont été emportées. On a, nous, la plupart de nos infrastructures sportives, culturelles qui ont été dévastées, tous les services de la mairie et des services techniques. Donc voilà, c'est des dégâts qui sont assez monstrueux. Sur la commune de Bray, pour vous donner une idée, uniquement sur le patrimoine communal, on a quasiment 25 millions d'euros de dégâts. Bah, il faut que les assurances fassent le boulot. Et effectivement, à notre niveau, on n'a pas beaucoup de leviers, mais on essaie de mettre au maximum la pression pour que le travail soit fait, quoi. Pour que le travail soit fait, parce qu'on a vu beaucoup de gens de partout qui sont venus nous aider, qui nous ont fait des dons financiers alors qu'ils ne nous devaient rien, par pure solidarité, par pure générosité.
Sur leur propre denier.
Sur leur propre denier. Et les assurances dont c'est le travail, qui sont tenues par des obligations contractuelles d'indemniser, eh bien, elles se font tirer les oreilles. Et c'est quand même très regrettable.
Alors, il y a un autre sujet que je voudrais aborder avec vous, monsieur le maire. Peut-être que je me trompe, hein, vous allez me le dire. J'ai cette sensation que la tempête Alex a rassemblé les gens de Bray, a créé une véritable solidarité, alors que l'arrivée des réfugiés en 2016 a divisé la population.
Eh oui, ça a été un sujet particulièrement épineux, clivant aussi, parce que ça arrivait dans un contexte national où il y avait beaucoup de tensions et beaucoup de débats sur ce sujet-là. On a, en plus, comme chaque fois qu'il y a une situation comme celle-là, très vite, des extrêmes, on va dire, des personnes qui sont plus militantes que d'autres, qui s'emparent un petit peu du débat, et chacun, plus ou moins, et se sent obligé de se positionner sur un sujet qui dépasse largement la vallée de la Roya. On se retrouve localement à devoir traiter d'une problématique qui, en réalité, peut se traiter qu'à un niveau national, international. Voilà, c'est toujours très difficile parce qu'on a tous une position théorique et politique. Et puis, quand on est confronté véritablement à une situation humaine comme celle-là, on agit.
C'est ça. Et vous qui êtes maire LR, on se dit que vous n'êtes pas forcément favorable à l'arrivée des réfugiés.
Je les ai accueillis, pas moi personnellement, mais disons...
Vous n'avez pas accueilli chez vous? Vous n'auriez pas fait comme Cédric Héroux, alors parce que je parle de Cédric Héroux parce que tout le monde le connaît.
Ah oui.
Donc c'est quand même la figure de Bray-sur-Roya. Il habite en bas, Cédric Héroux.
Plutôt du côté Vintimille, la sortie du village côté sud.
Donc on a vu beaucoup d'images de Cédric Héroux se mettre en infraction par rapport à la loi. Vous n'auriez pas fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi je ne l'aurais pas fait, évidemment, et si je l'avais fait, je l'aurais fait de manière discrète. Ce qui pose problème, c'est quand on en fait véritablement
un porte-étendard.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, un étendard politique, c'est ça qui clive et c'est ça qui fait qu'à un moment donné ça suscite une opposition. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu.
Nathalie ?
Moi pas du tout, puisque à l'époque l'étendard politique il n'en était pas question, puisque je connais Cédric Héroux bien avant et que moi je favorisais la venue venue des médias parce que je voulais hurler à la détresse du fait que nous, on se substitue au pouvoir public.
Qu'est-ce que vous en pensez de cet appel de Nathalie, où vous prenez la discrétion ?
Alors, je doute pas de la bonne intention d'une partie de ceux qui ont médiatisé l'affaire au départ. En revanche, je pense que dans les conséquences, ça a été plutôt négatif qu'autre chose. L'emballement médiatique, on a la présence des policiers qui est renforcée par voie de conséquence, on a eu après un journal d'extrême droite qui est sorti de nulle part et qui a commencé à propager des propos odieux. Et puis, finalement, il y a un moment où, en fait, les gens se disent « Oh là, en fait, dans la vallée de la Roya, il y a surtout des problèmes, quoi ».
Vous, Jean-Pierre, vous n'êtes plus sous le secret, vous êtes à la retraite, donc vous pouvez parler librement bien par sûr, rapport à ça.
Tout à fait. De toute façon, je le faisais. Oui, bien entendu.
Quand on a été policier, j'imagine qu'on connaît les règles.
Absolument, ça oui. C'est-à-dire que je me suis mis plusieurs fois à l'infraction, ça c'est certain. Voilà, ça c'est clair et net. C'est une chose que j'ai assumée, tout simplement. Voilà, j'étais en infraction. Pourquoi ? C'est très simple. Je dis une loi, ou c'est pas forcément une loi, si on veut être sur le plan juridique, c'est peut-être un règlement qui interdit aux citoyens de favoriser le déplacement des personnes en situation irrégulière. Or, moi, j'ai déplacé des personnes en situation irrégulière.
C'est clair. Quand vous étiez en fonction, est-ce que vous avez déjà bravé les lois ?
Jamais. Jamais parce que... Non, jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Le problème ne s'était jamais posé.
Michel Braun, vous êtes aussi avec nous. Vous vous êtes assis sur cette petite table qu'on a bricolée. Ah oui, parce qu'il n'y a plus de bistrot ici, monsieur le maire.
Pas encore, mais ça bientôt. Arrive. On est en train de le reloger.
On fait un peu camping devant l'église sur la place du marché de Breil. Vous êtes toujours sur France Inter et avec nous, Michel Braun, vous êtes là pour nous parler du train. Parce que vous êtes éditeur, passionné par le train.
Effectivement, la vallée de la Roya, c'est une vallée de transit qui est desservie par une route qui est aujourd'hui détruite et par une voie ferrée qui fonctionne K1, un peu comme elle peut. Mais c'est vrai que il y a eu des drames humains terribles suite à Alex, mais les plus grosses destructions, les gens ont du mal à l'imaginer, ce sont sur les voies de communication et qui impactent terriblement tout ce qui est vie économique de la vallée.
Et là, on l'a pris, ce train, et c'est vrai qu'on s'est dit, s'il n'y a plus de train ici, comment on fait pour ravitailler les gens ? Comment on fait pour vivre ? On ne peut pas. Le train, c'est la ligne de vie, c'est ce que tout le monde nous dit.
Oui, c'est un peu un slogan qui est très juste, mais c'est vrai qu'en France, c'est un pays où on a tendance un petit peu à donner la priorité au TGV, aux grandes lignes, etc. Ici, on est pourtant sur une, de mon point de vue, par une grande ligne qui relie Nice à Turin, donc qui a toute sa pertinence et qui dessert nos villages de façon écologique. Et imaginez que dans cette vallée, il y avait les week-ends, 10 000 personnes qui passaient, qui s'arrêtaient, qui consommaient, des Italiens en transit, hein, parce qu'on l'a expliqué dès le début, c'est-à-dire on est un petit peu une verrue en territoire italien, c'est-à-dire que les gens qui viennent du Piémont et qui vont vers la Riviera, vers San Remo, ils passent obligatoirement par ici. Et pour franchir ces montagnes, il y a le tunnel du Col de Tende, et le tunnel du Col de Tende s'est effondré sur sa partie sud. Donc là, il y a pour des années de travaux avant de le retrouver.
Eh bien justement, quand on est arrivé hier, on a rencontré Alain. Lui aussi, il est très attaché au train, mais c'est avec ses ânes qu'il arpente la montagne. On l'a retrouvé pour une petite balade et on vous emmène.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Allez, Coco. Mais c'est quoi l'intérêt de se balader avec un âne, en fait ?
J'ai fait une formation qui coûtait très cher et qui s'appelait « Apprendre à marcher en pleine conscience ». Et en fait, j'aurais dû le faire direct avec les ânes.
Ça vous aurait coûté moins cher.
Oui, parce qu'eux, ils m'ont appris ça aussi. Ils marchent, eux, en pleine conscience. Forcément, tu as un rythme vraiment, tu vois, comme là, très calme, tranquille. Et bon, avec eux, de s'arrêter souvent. Comme ça, tu peux contempler ce qu'il y a autour.
C'est un peu la route de Stevenson sur la Roya.
Voilà, c'est ça.
Allez. Et qu'est-ce qui vous a amené dans la vallée de la Roya, Alain ?
J'ai changé de vie, j'ai eu un très gros accident de la route avec un beau traumatisme crânien qui m'a libéré l'esprit, en fait. J'ai décidé de vivre la montagne.
Vous faisiez quoi avant l'accident ?
Du marketing à la SNCF. Je commençais à être pas très bien. Parce que je faisais des choses qui, au niveau du sens, m'inquiétaient un peu.
C'est-à-dire ?
Je fermais les gares, je supprimais les trains, je supprimais des postes de travail, enfin voilà. Je faisais des économies, en gros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis très attentif à l'avenir de...
Du train
dans la vallée.
Non, c'est la marche pleine conscience, c'est fatigant.
Non, mais là, on n'y est pas encore.
Alors, qu'est-ce qu'on voit là ?
Là, ce que tu vois, c'est Saorge. Saorgio. Très joli village, perché avec un monastère franciscain.
Il y a plein de petits villages accrochés à la montagne ici.
Ouais. Devant nous, là, tu as ce qu'on appelle l'Arpette. L'Arpette, c'est un peu une montagne repère pour les Bréuois. Quand on parle de la météo, on dit ce qu'on voit sur l'Arpette. On dit « Oh, on ne voit pas l'Arpette !»« Oh, l'Arpette est tout blanc !»« Oh !» Enfin voilà, l'Arpette, c'est un repère.
Je comprends qu'ils mangent autant toutes ces petites fleurs des montagnes, parce qu'elles sont très très jolies. Hein.
Bah, j'aimerais bien qu'ils mangent moins et qu'ils marchent plus.
C'est pas une carotte, c'est un micro.
Mesdames et messieurs, vous écoutez France Inter. Rendez-vous place du marché à Bray-sur-Roya avec Aurélie 16. Attention au départ.
Are you lost and lonely? No home time, did you arrive just a waiting line? Are you left thinking that there's no there? Well, the people care till they just don't care. Keep it, did I see you walking while you were sleeping? Did I hear you talking just like you got some notion? Do you see a mirror where I see it?
C'était Nick Waterhouse, Tout Elle, sur France Inter. Vous écoutez Rendez-vous Place du Marché et nous sommes aujourd'hui à Bray-sur-Roya, où tout le monde me parle de Françoise depuis que je suis arrivée. Elle m'a invitée chez elle, alors on y va, dans sa camionnette. Françoise, je peux monter avec vous devant ?
Vous n'avez pas peur des petits chiens ?
Non.
Non, parce qu'il y a, trois petits chiens qui aboient beaucoup, mais qui sont sympas. On sort de Bray et on monte sur les hauteurs de Bray.
C'est votre maison, elle est là-haut. Au niveau géographique, je trouve ça fantastique.
C'est une très belle nature. J'ai l'impression que la nature essaie de se faire pardonner. Elle est encore plus belle que d'habitude. Ou elle essaie de nous faire oublier ce qui s'est passé, peut-être. Cette année, c'est sublime.
C'est quoi votre histoire avec cette vallée, à vous ?
Ben moi, je suis arrivée ici un peu par hasard. Et puis, j'y suis restée. je suis un petit peu sur la route de mes grands-parents qui étaient italiens et qui avaient traversé la frontière par Tende. Donc je suis venue me promener par là, je cherchais une maison et je suis restée ici, il y a 20 ans.
D'accord.
À la base, je suis niçoise, mais je voulais vivre dans la nature et je crois qu'ici, j'ai trouvé le bon endroit.
Vous allez partir un jour ou pas?
D'ici?
Ouais.
Bah, à mon âge, si je pars, je ne sais pas pour aller où. Hein. T'es les pieds devant, comme on dit.
Et là, on arrive chez vous.
C'est l'accueil.
Vous avez une drôle de Marianne, comme un nain de jardin, mais c'est une Marianne de jardin.
Non, c'est une Marianne de gilet jaune.
C'est une Marianne de gilet jaune.
Qui nous a été offerte par un sculpteur de Breil. Et quand on faisait les barrages gilets jaunes sur la route, on emmenait Marianne.
Ouais, elle est en colère. Hein.
Elle n'est pas très contente, oui.
Non, elle a un peu les yeux qui sortent de la tête.
Ouais.
Ça annonce la couleur quand on vient chez vous.
Si on veut, oui.
Jaune.
Voilà, jaune. Vert et jaune.
Allez.
Vous, Françoise.
Oui. Moi.
Votre travail, c'était quoi?
Avocat. Mais pas ici, hein. À Paris. Et puis maintenant, voilà, je suis ici.
Dans votre boulot d'avocate, ce qui vous excite le plus, c'est de défendre quoi?
Tout. De toute façon, je n'adhère à aucune des causes que je défends. Aucune. Je n'adhère pas à la pédophilie, je n'adhère pas au viol, je n'adhère pas au trafic de drogue. On n'est pas là pour adhérer. Je suis là pour être un équilibre.
Vous avez déjà défendu des types qui étaient coupables que vous
trouvez... J'ai défendu que des coupables, pratiquement, ouais. Et je n'ai pas besoin de les aimer. Je ne couche pas avec eux, vous voyez, je les défends.
Et vous les défendez bien, même si vous ne les aimez pas?
Mieux d'ailleurs, je pense. On les défend mieux.
C'est vrai?
Parce qu'il y a plus de recul. Moi, je pense que c'est un métier de démocratie, être avocat.
Comme être médecin?
Oui. Le médecin, il n'est pas obligé d'aimer les gens qui charcutent. Donc moi, je peux défendre.
Donc vous arrivez à vous dissocier, quoi?
Complètement. Venez voir un peu. Là, on a la mare, les poissons et les têtards pour l'instant. Vous voyez, elle est en forme de cœur, cette mare.
C'est vous qui l'avez dessinée?
Elle a une histoire, je vous la raconte.
Ouais.
En 2015, il y avait ici un certain nombre de réfugiés qui étaient hébergés. Et il y avait entre autres une quinzaine de très jeunes érythréens qui avaient entre 15 et 17 ans. J'ai dit, oh, j'aimerais bien avoir une mare. Ils ont pris la pelle, la pioche et ils m'ont fait une mare.
En forme de cœur?
Ouais. C'est chouette, hein?
Ouais.
Ça m'émeut beaucoup.
Vous les avez vus, l'affaire, ou c'était la surprise?
Oui, bien sûr.
Donc vous leur avez dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Ils m'ont dit, on te fait une mare.
Comment ça a commencé tout ça pour vous, Françoise? Vous avez hébergé plein de gens ici, plein de réfugiés. Vous dites réfugiés, vous dites migrants, qu'est-ce que vous dites?
Je dis réfugiés, moi. Moi, je dis réfugiés. Migrants, ça veut rien dire. C'est les oiseaux qui sont migrateurs. Et les oiseaux, ils vont et ils viennent. Et les réfugiés, quand ils sont partis, peuvent pas retourner. Ben, comment ça a commencé?
Vous en avez hébergé pas mal, hein? Combien?
Bon, je sais pas, plusieurs centaines. Mais j'en avais entre 30 et 40 à la fois. Et quand ils partaient, il y en a d'autres qui revenaient. Hein. Comment ça a commencé? Ça a commencé qu'on les a vus remonter le long de la route, à pied. Ben, certaines personnes, dont moi, on s'est arrêtés pour les prendre en voiture. Comme ils n'avaient rien, on les a ramenés à la maison. Et puis voilà. Des familles entières avec des gosses. Ben, c'était assez déplorable, hein, franchement. Certains sont restés très peu, d'autres sont restés longtemps. Chamberlain, il est resté plus d'un an.
Chamberlain, il est là.
En fait, il s'est passé juste que j'ai fait ce que j'avais à faire. Quoi. Je les ai hébergés, je leur ai donné à manger. Une démarche, en définitive, un peu basique, vous voyez.
C'est normal?
Moi, je trouve ça normal, oui.
Il y en a qui ne trouvent pas ça normal?
Non, mais enfin, chacun son éthique, chacun sa façon de vivre. Moi, je trouve ça normal. En fait, c'était un jour où il pleuvait énormément. Et j'étais avec une amie. Et dans le tournant en bas qu'on vient de prendre, il y avait un homme, une femme, un jeune... Et l'homme portait un sac de pommes de terre. Ils étaient tous noirs, relativement pieds nus, donc c'était clair qu'ils étaient déjà dans un problème. Donc je me suis arrêtée. Ils sont montés avec le sac de pommes de terre. Et quand on est arrivé ici, il a ouvert un sac de pommes de terre, il y avait une petite fille. Alors la petite fille s'est couchée avec sa maman. Et j'ai jamais vu un tel regard et un tel sourire de bonheur que le sourire de cette petite fille quand elle s'est retrouvée dans le lit. Ça, j'oublierai jamais. Ouais. On n'est pas préparé. Et c'est pour ça que j'en veux énormément au pouvoir public, parce qu'on s'est retrouvé en première ligne, à faire un boulot qui n'est pas le nôtre. voyez, moi, je suis pas psy, je suis pas assistante sociale, je suis pas cantinière. On a fait comme on a pu. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça risque de recommencer. C'est une évidence.
Ici, dans la vallée de la Roya ou partout, partout.
Vous savez, moi, je vais deux fois par mois à Vintimille pour organiser ce qu'on appelle des maraudes, parce que l'État italien ne donne plus à manger aux gens, ils sont plus hébergés, donc ils vivent dans la rue. Ils sont de nouveau très nombreux, quoi. On fait 250 repas par soir, ce qui est énorme. Mais rien n'est réglé, quoi. C'était évident.
Donc quand on n'est pas préparé à ça,
on fait ce qu'on peut, on improvise. On fait à manger. Enfin, moi, j'arrive à faire 250 repas dans la cuisine, hein.
Ça, vous faisiez pas ça avant?
Non, je faisais pas ça avant. On trouve des matelas, des lits, on se débrouille. Mais la maison était pleine de lits dans tous les sens. Et ça remet beaucoup en question aussi le sens de la propriété privée. Parce que votre maison est ouverte, elle appartient à tout le monde. Il n'y a plus du tout d'intimité, c'est un peu particulier.
Donc on s'invente un refuge.
Voilà, on s'invente un camp. Ici, on avait bien fait les choses avec des amis. Il y avait une école pour les enfants. Au rez-de-chaussée, on avait fait une infirmerie. Dans la chapelle, il y avait les vêtements qui étaient stockés. Je trouve qu'on s'était bien débrouillé.
Vous montrez l'intérieur de la maison ?
Oui, bien sûr.
Donc là, c'est la pièce principale.
Donc là, c'était comment ? Vous aviez aménagé ?
Il y en avait 3-4 sur le canapé, plein dans l'escalier. Ouais. Et puis après, il y a des chambres derrière, pleines de matelas aussi, partout.
Et est-ce que maintenant, on sait que chez Françoise, on peut venir ?
Non. Mais non, de toute façon, c'est fini, ils passent plus la frontière. Maintenant, ils sont stockés à Vintimille. Ah oui, stockés, moi j'appelle ça stockés. Sur un parking à Vintimille, ils attendent qu'on leur donne à manger. Et quand ils peuvent, ils essaient de passer la frontière par le train. Mais on ne les voit plus remonter du tout à pied, par ici.
Vous saviez que c'était interdit de les accueillir ?
Oui.
Alors là, vous êtes avocate, vous en foutez ?
Complètement. Je ne peux même pas épiloguer parce que je m'en fous complètement, oui, ça n'existe pas. C'est mes propres règles, moi, que j'applique.
Est-ce qu'il y a eu des moments où vous en avez eu ras-le-bol ?
Oui, il y a des moments où c'est fatigant. D'ailleurs, je me demande aujourd'hui si je devais refaire la même chose, est-ce que je le ferais ? Alors je dis oui, mais ça me demanderait un effort. Moi, je veux faire ce que j'ai à faire et qu'on me foute la paix, c'est tout.
Vous aurez une bonne place au paradis ?
Il est où le paradis ?
Il est ici ?
Voilà, j'ai une bonne place, ça me suffit.
Vous leur demandez de raconter l'histoire du parcours ou jamais ?
Jamais. Par exemple, Chamberlain, il a horreur de parler de son histoire. Vous pouvez essayer, mais il n'aime pas trop.
Elle n'a rien de particulier, du coup, ouais, mon histoire. Je pense que tous les êtres humains ont une histoire. On s'en fout de là où tu viens ou de là où tu es né. C'est pas gagné, c'est difficile pour tout le monde a des difficultés. On s'intéresse à moi qu'à mon histoire.
Est-ce qu'on n'est pas tous aussi un peu indissociables de son histoire ?
Bien évidemment, on est construit de ça. C'est mon déterminisme qui fait de moi ce que je suis, tout comme vous. Donc du coup, si je viens vers vous, c'est pas votre histoire qui doit m'intéresser.
Si on était amis, vous me raconteriez votre histoire ?
Avec plaisir.
Mais comme on ne se connaît pas ?
Je pense qu'il y a une glace à briser entre nous.
Et qu'en plus, vous avez un micro France Inter devant la bouche ?
Une raison de plus pour être... Je ne sais pas si c'est être méfiant ou c'est être réticent. Je ne trouve pas le mot, mais c'est normal d'établir le lien avec les autres.
Là, on est face à la montagne. Pour vous, est-ce que c'est un paysage magnifique ou est-ce que c'est un paysage qui représente des montagnes à franchir, quoi.
Ça fait partie intégrante de la nature. C'est des hommes qui essayent de poser des limites. Une chose est sûre, c'est une réalité fictive. Il n'existe pas de frontières.
Comment vous l'avez rencontré, Françoise ?
Je suis arrivé par là, dans cette vallée.
Vous êtes arrivé par là-bas, à pied ?
Cugnon, j'ai pris le train. C'est en Italie. Je suis arrivé à Bray, on m'a chopé, on m'a renvoyé à Vintimille. Il y a une vieille maison abandonnée là. Mais c'était un 5 étoiles pour moi. Du coup, j'ai passé la nuit là-bas au Calais, tranquille. On est resté là une semaine, il y a plein de gens qui venaient nous donner à manger, des vêtements, nanani. Je ne suis pas sorti pour faire le tour du monde. Donc moi, je cherche un accueil. Voilà, du coup, elle m'a dit, ok, t'inquiète, je connais une dame qui reçoit les migrants chez elle. Je suis resté là plus d'un mois. J'étais bien, quoi. Je faisais ce que je voulais. Ils m'ont jamais posé une question. Tu viens d'où ? Tu pars où ?
Je peux vous la poser, moi, juste la question de vous venez d'où ?
Moi, je viens du Cameroun. Du coup, après, il y a Françoise qui est arrivée de Paris. Elle est venue me chercher. Elle m'a dit, Chambi, ici, je suis chez toi. Tu fais ce que tu veux. Sans rien attendre en retour. c'est aussi ça qui m'a interpellé dans ce parcours.
Démarche.
Parce que de voir des gens qui posent des actes désintéressés dans tous les sens du thème, mais vraiment désintéressés. Du coup, à un moment donné, tu t'es dit, mais il y a quand même des gens qui ont encore un peu d'humanité en eux, qui croient encore en l'être humain. On peut encore dire ça à un homme et tout, tu vois. J'étais aussi dans une période de questionnement. François, c'est ma maman en France, tu vois. J'ai ma maman au Cameroun, mais en France, c'est elle, ma maman.
Elles se connaissent, votre mère et Françoise? Sur Skype ou sur WhatsApp, elles se sont parlé?
Je leur ai déjà fait discuter ensemble.
Vous vous sentez redevable ou pas?
La redevance, c'est pas mon délire.
La dette, c'est pas votre délire?
Ouais. Voilà, quand tu as perdu la valeur humaine, tu arrives quelque part où tu retrouves cette valeur humaine, tu retrouves le sourire. J'arrête de survivre et je commence à vivre à nouveau.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Mani, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher, être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, c'est partir qu'on veut, revenir qu'on part. C'est égaux en droit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Choisis pas non plus le trottoir de Mani, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
C'était Ayo, né quelque part. Et je suis de retour sur le marché de Breil, dans la vallée de la Roya. Vous êtes toujours sur France Inter. Et j'ai rendez-vous pour l'apéro, juste devant l'église. Je vais retourner sur la petite table qu'on a installée ici sur la place du marché. Et je vais retrouver Marion Gaucher, qui est co-responsable de la communauté Emmaüs Roya, Gwen, Françoise, Lucas et tous ses amis du cœur Kourou des Béras. Bonjour Gwen.
Bonjour.
Vous êtes venue avec vos copains, vos amis musiciens du cœur Kourou des Béras.
C'est le cœur de Ber, Ber-les-Alpes. C'est une ville un village à côté de Nice.
Et donc vous êtes prof de chant ?
Oui, ça m'arrive d'animer une chorale à Breil-sur-Roya. Une chorale qui regroupe des chanteurs de toute la vallée. Donc nous n'avons pas chanté depuis la tempête Alex.
Ah, donc c'est un peu une première.
Là, on chante avec le Kourou, donc ouais. C'est une première aussi d'ailleurs.
Merci d'être venu. On va aller chanter tout à l'heure devant l'église. C'est très sympa. Merci beaucoup. Et puis, il y a un petit apéro ici. Bonjour, Marion Gaucher.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Marion ?
Alors là, il y a des fraises et de la pâte d'olive.
Et du limoncello.
Ah, le limoncello, c'est pas de nous.
Qu'est-ce qu'elle a apporté ? C'est Gwen qui avait... C'est vous ?
Oui, voilà. J'ai demandé à la famille s'ils en avaient parce que moi, je sais pas du tout le faire.
Fais maison. À boire avec modération ?
Oui, surtout que c'est un digestif normalement et que là on est à l'apéro donc.
Voilà, on fait tout à l'envers ici. Hein. Marion Gaucher, vous êtes co-responsable de la communauté Emmaüs Roya.
Oui, et c'est une communauté, c'est la 120e communauté Emmaüs de France. Elle est née en juillet 2019 et on s'est demandé comment on pouvait transformer l'accueil d'urgence, l'accueil court terme en accueil moyen ou long terme. Et c'est là qu'on est allé à la rencontre de différents acteurs associatifs. On a rencontré Emmaüs France qui nous a du coup expliqué leur mode de fonctionnement avec les communautés Emmaüs. Et on leur a demandé de rejoindre le mouvement. Mais contrairement aux autres communautés qui font du bric-à-brac, donc qui récupèrent des objets, qui les retapent et les revendent, nous on fait de l'agriculture. On fait de l'oléiculture, donc des oliviers pour faire de l'huile, de la pâte d'olive. On a des poules pondeuses et on fait du maraîchage.
On goûte ?
Allez.
Donc la pâte d'olive, c'est la tapenade en fait.
Ouh, c'est malheur,
ce que nous on appelle la tapenade.
Alors non, il y a grand débat, mais ah. Il paraît que la tapenade c'est avec des câpres et des anchois, alors que la pâte d'olive c'est juste des olives écrasées avec de l'huile.
C'est délicieux.
Merci. Elle est faite à la Cuma de Breil-sur-Roya. Donc c'est une coopérative agricole qui met à disposition des machines, notamment pour réaliser la pâte d'olive.
Et il y en a beaucoup sur le territoire en France, des communautés Emmaüs agricoles ?
Non, nous on est la première exclusivement paysanne, dans le sens où nos sources de revenus viennent directement de l'agriculture. Les autres communautés Emmaüs, il y en a certaines qui font de l'agriculture, mais c'est plus vivrier ou c'est en annexe de leur bric-à-brac. Du coup nous on est vraiment les premiers et on sert un peu de crash test, on va dire, au mouvement Emmaüs France pour voir comment notre modèle peut être répliqué et pérennisé.
Un kilo de fraises comme celle-ci, ça coûte combien ?
Alors un kilo c'est 14 euros en vente directe et donc en fait la petite barquette là de 250 grammes c'est 3,50 €.
D'accord, donc c'est pas parce que c'est Emmaüs que c'est moins cher ?
Ah non, pas du tout, c'est même c'est plutôt l'inverse, je pense qu'on a une démarche agricole qui est assez belle pour pas dire exemplaire, donc on est en agriculture biologique, on est en plein champ contrairement à beaucoup d'agriculture qui se fait sous serre. On utilise le moins d'engrais possible, c'est le fumier des poules qui sert à nourrir la terre. On fait attention à tout ça.
Allez, à la vôtre, chin-chin.
Et à la recirculation dans la vallée, qu'on puisse revoir tranquillement nos potes de tende et nos copains italiens, et voilà, que la vie reprenne bien.
Et là, le marché touche à sa fin.
Ah oui, ça remballe.
Ça vous dit qu'on rentre dans l'église ?
Allez, on
va écouter le chœur. Je rentre dans l'église. L'église de Breil-sur-Roya. Quand on rentre dans l'église, toutes les fresques, le sol, on sent encore que ça a été complètement inondé. Il y a même encore des petites traces d'eau qui remontent.
Ouais, c'est ça. Du coup, tu vois que l'eau est montée jusqu'à plus de 1,80 m. Tout a été débarrassé, donc ça sent le renouveau. Et puis les choses vont être peintes, et puis il y a même des chanteurs. Donc ça veut dire que ça y est, c'est reparti.
On va la faire vibrer.
Mais bien sûr.
Qu'est-ce que vous allez chanter ?
Montagne di Valroya. Une charmante chanson, c'est sur l'air de Adi Ulugano-Bell, une chanson écrite par Pietro Gori, qui est un peu une chanson anarchiste quand même. Et c'est les partisans, à la fin de la dernière guerre, en descendant de Casterino, d'un quartier de la Haute Valroya, qui ont fait cette chanson pour remercier les gens qui les avaient accueillis, soignés, aider, aimer, nourrir, tout ça, voilà. Ils ont fait cette chanson et on vous la chante.
Qui s'appelle Adio Val Roya ?
Oui.
C'est bien à propos puisqu'on va se quitter après.
Voilà.
Tu veux revoir la note ?
Oui, bien sûr.
Montagne di Val Roya, valloni e valloncelli, dove noi siamo passati nei nostri giorni belli. I partigiani vanno seguendo il loro destino, i partigiani vanno seguendo il loro destino. Addio bel Castellino, o dolce terra amica, scendiamo verso il piano, lasciando pera figa di questa cara terra, giammai ci scordere di questa cara terra, giammai ci scordere dei prati del Sabione e questa scandeiera. Forse la nostra casa sulla montagna nera, voi pure salutiamo con la speranza in cuor, voi pure salutiamo con la speranza in cuor. Saluto, vi diamo tutti in coro, forse ci rivedremo nel tempo che verrà, forse ci rivedremo nel tempo che verrà. Valloni di vittoria, un giorno torneremo tra i canti di vittoria, un giorno torneremo. Addio ragazze belle, di Mesce Castellino, ci avete rese liete l'età del cammino. I vostri bei ricordi nel cuore porteremo, i vostri bei ricordi nel cuore porteremo. Voi tutti amici cari, amici cari, amici che restate nel partigiano arpeggio, sempre vi ricordate, un giorno se più bello, forse ci rivedremo, un giorno se più bello, forse ci rivedremo, forse ci
Bréjoise, Bréjois, merci à tous et à très bientôt. Cette émission a été réalisée par Juliette Medevielle, préparée par Marion Philippe, et vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Lundi, vous retrouvez Antoine Lee à Champigny-sur-Marne. après les informations, vous retrouvez Camille Crenier pour le débat de midi. Bonjour Camille, de quoi on va parler aujourd'hui ?
Bonjour Aurélie, vous allez chausser les crampons puisqu'on parle football. Est-ce que c'est grave si on n'aime pas le foot ? À tout de suite.